Trois ateliers cyanotypes nous sont proposés ce 21 juin au Fab Lab de Caylus, des ateliers en partenariat avec la commune de Caylus, le PETR du Pays Midi-Quercy et les archives départementales. Pour en parler, Delphine Florec, la chef de service archives et conservation, bonjour.
Bonjour.
Camille Vial, archiviste responsable des collections photographiques et numériques et chargée d'enseignement, bonjour.
Bonjour.
Des ateliers cyanotypes autour de la série « Dans l'objectif » de Paul Faure. Des photos d'un auteur caylusien qui est passionné de photos, sur des photos prises sur la fin 19e et début 20e, des photos donc prises par Paul Faure. Camille, est-ce que vous pouvez nous le présenter ?
Paul Faure, c'était, comme ça a été dit au début, c'était un auteur en fait, qui était, dont l'activité était basée à Caylus, mais qui était aussi photographe en fait, amateur. Il n'est pas officiellement enregistré comme photographe officiel. Il n'a pas un studio, il n'a pas pignon sur rue avec son studio. Mais en tout cas, il a produit énormément d'archives, enfin de photographies entre 1880 et 1908 à Caylus et enfin dans les villages aux alentours. Alors pour le faire rapidement, l'histoire elle commence en fait de la volonté des archives départementales de Tarn-et-Garonne d'essayer d'avoir une vision globale sur les productions, sur les photographes en fait, qu'ils soient amateurs, professionnels ou ambulants, sur le territoire, dans le département de Tarn-et-Garonne. Donc, on avait commencé un travail il y a 3 ans où on a répertorié en fait tous les photographes, donc de la naissance de l'héliographie de 1826, enfin tous les photographes, ceux qu'on a pu trouver dans les sources écrites à nos jours. Et en fait, de fil en aiguille, une fois qu'on a eu ce répertoire un petit peu détaillé avec les noms, enfin l'état civil. Les noms, prénoms et état civil, après d'aller essayer de creuser un petit peu plus pour chaque personne. Et en fait, pour Paul Faure, on a trouvé un site internet en ligne concernant sa production photographique qui a été publié après une étude faite par la maison René Ginouvès à Nanterre. Et en fait, de fil en aiguille, on a réussi un petit peu à remonter tous les acteurs qui avaient pu intervenir sur la conservation de ce fonds et donc à rencontrer l'association Découverte. Sauvegarde et découverte pardon du patrimoine de Limoges-en-Quercy. Et en fait le fonds était conservé à la maison de la chasse et du patrimoine de Limoges. Donc on a rencontré Yves Lacan et Thierry Pellissier voilà, c'était un petit peu enfin pour faire le fil de conservation. Et avant, ce fonds là en fait a été donné par la famille de Paul Faure, par les Pradines en fait, à la mairie, à l'association. Enfin voilà, il y avait eu un don fait de la part de la famille.
Et en volume, ça représente quoi ? Et dans quel état vous avez retrouvé ces plaques de verre ?
Elles étaient conservées à la maison de la chasse du patrimoine, et ça faisait une vingtaine d'années, je pense, qu'elles étaient là à peu près. Et c'était organisé dans des caisses, en fait, et dans des boîtes d'origine. Donc les archives, on a fait avec l'équipe tout un travail de conservation préventive, de dépoussiérage et de conditionnement dans du matériel adapté, dans des pochettes neutres, en fait, de conservation adaptées aux collections photographique sur plaque de verre. Et le fond, pour répondre à la question, on l'estime à peu près à 10 mètres linéaires. On compte en mètres linéaires pour les documents d'archives. Et on a environ 1680 plaques de verre exactement. 1680 documents.
Vous avez fait quoi en gros ? Vous les avez nettoyés ? Vous avez fait quoi ? Vous les avez mis dans un scanner ? Vous appuyez sur numériser et voilà ?
Et non. Donc oui, la première étape, c'est bien sûr, c'est d'abord quand vous recevez quand on allait chercher le fond, c'était dans des caisses. Donc vous avez des caisses remplies de boîtes anciennes avec des plaques de verre. Vous savez pas trop ce qu'il y a dedans. Donc la première étape, c'est déjà de faire un petit peu pas un audit, mais un état des lieux général de qu'est-ce qu'on trouve, quel est l'état sanitaire du fond, parce qu'il y a aussi il y a certaines plaques de verre qui étaient très abîmées, il y avait de la moisissure, ça avait pris l'humidité. Donc vous faites un premier tri, non pas qu'on élimine, etc. Mais bon, il y a une mise en quarantaine de certains documents qui méritent, etc. Et ensuite, oui, il y a un dépoussiérage et un nettoyage des plaques. Donc en fait, avec une procédure un petit peu particulière, je ne vais pas rentrer dans le détail, mais en fait, votre plaque de verre, c'est une plaque de verre, et le photographe, il y a un côté couche, donc le photographe va induire la plaque de verre d'une couche sensible. Et donc ça, vous le nettoyez au pinceau de manière délicate. Et de l'autre côté, on a plutôt un mélange, un autre mélange au alcool. Enfin, je voulais pas rentrer dans les détails, mais je rentre dans les détails. Mais en tout cas, il y a une procédure, voilà, un petit peu à suivre. Et avant d'appliquer ce process de nettoyage-là, il faut pouvoir identifier le procédé photographique, parce que vous allez pas, Vous n'allez pas nettoyer et décontaminer le document de la même manière que ce soit, de la même manière selon le procédé et la technique photo. Voilà, il y a aussi savoir identifier en même temps le procédé que vous avez fait sous les yeux. Et donc, une fois que vous avez nettoyé, oui, conditionnement dans du papier. C'est des pochettes, en fait, 4 rabats au papier non acide. Et après, la numérisation intervient ensuite. Et là, c'est de la prise de vue photographique sur un banc de reproduction avec un appareil et une table lumineuse. Et évidemment, derrière, il y a tout un travail de préparation en amont et de traitement des fichiers ensuite, quoi. C'est oui ou non, on n'appuie pas sur un bouton. Il faut nommer le fichier. On donne, en fait, un numéro d'inventaire quand on fait un classement physique intellectuel. Il faut que le numéro d'inventaire physique, votre photo numéro 1, quand vous allez la numériser, il faut ensuite pouvoir la retrouver. Donc, vous allez aussi la nommer. Enfin, il y a tout un travail comme ça, en amont de la prise de vue de la numérisation. Et puis après...
Ça, c'est pour le côté physique, le côté intellectuel. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit dans ces photos? Qu'est-ce que ça a pu vous apprendre? Qu'est-ce qu'on va pouvoir voir lors de l'exposition de ce fonds Paul Faure?
Ce qui est intéressant avec le fonds Paul Faure, d'abord, c'est que, bon, on le verra peut-être pas, on le verra pas, en fait, pendant l'atelier scénographie, ce côté-là, mais ce fonds, il est intéressant parce qu'il témoigne à la fois de, il s'insère vraiment entre, dans une période très charnière dans l'histoire de la photographie parce que il se place dans une période qu'on dit artisanale, avec des techniques comme l'albumine, pardon, ou le collodion. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, mais en fait, avant l'industrialisation de la photographie, comme nous aujourd'hui, on va acheter peut-être encore notre pellicule toute prête chez le photographe. Pour ceux qui font de l'argentique, ils comprendront. Mais avant, en fait, 1880, c'était le photographe qui découpait sa plaque de verre, qui découpait son support et qui faisait sa petite recette photographique dans sa cuisine, dans son laboratoire. Enfin, voilà. Et qui devait trouver les bons composants chimiques. Alors, il y avait des traités, etc. Mais en tout cas, voilà, le fonds Paul Faure, il témoigne de cette partie-là. Donc, c'est aussi ça qui est intéressant. Et ensuite, de l'industrialisation. Et au-delà de ça, il témoigne aussi de la vie des habitants du Quercy, notamment de Caylus et des villages aux alentours. On a beaucoup de portraits, des portraits de paysans, d'artisans, de notables locaux, de familles un peu plus bourgeoises. De la vie des habitants dans le Quercy, que ce soit les artisans, voilà, les paysans qui travaillent dans les champs, les artisans dans leur atelier... avec plusieurs pans de l'artisanat, comme notamment beaucoup de travail autour du bois, au travail du fer, avec un petit peu les chaînes de production qu'on a réussi avec Eugénie à identifier au fur et à mesure. La vie économique, culturelle, et la vie le quotidien des habitants de Caylus et des villages aux alentours, en fait. Il a vraiment photographié et capturé tous les instants de vie qu'il avait autour de lui, quoi. Voilà, sur ces plaques-là, entre 1880 à peu près et 1908.
Vous faites un véritable travail d'enquête, donc autant sur le terrain qu'auprès des populations, en essayant de chercher des données, des informations que vous allez compiler, nettoyer, recalculer, publier.
Oui, tout à fait. Hein. C'est sûr que ce qui nous tient dans notre métier, c'est vraiment ces découvertes, hein. Ce travail de recensement des collections, des témoignages sur l'histoire, sur l'histoire du département, la vie de ses habitants. À tous les niveaux, hein, que ce soit au niveau des archives publiques que des archives privées. Sachant que c'est sûr que ce type d'enquête, on le mènera plus spécifiquement sur les fonds d'archives privées, puisque les administrations ont l'obligation, en fait, hein, de nous verser leurs archives historiques. Et également de nous solliciter pour les éliminations, alors que les particuliers, les personnes physiques ou morales ne connaissent pas forcément notre existence. Donc c'est vrai qu'on se rend compte qu'on a encore beaucoup de travail de communication, de pédagogie à faire, parce qu'en fait, nous sommes potentiellement intéressés par des fonds d'archives familiales, des fonds d'archives personnels, d'entreprises. Enfin, il y a tout un panel, en fait, de fonds d'archives privés qui peuvent justement venir compléter les fonds d'archives institutionnels qu'on a et qui souvent montrent comment la société s'est appropriée, accaparée une politique publique ou en tout cas comment a réussi à vivre dans tel ou tel territoire. Donc c'est vrai que là, il faut effectivement, notamment sur les fonds photographiques, hein, sur lesquels on avait peut-être un peu de retard. Donc c'est bien de faire un point. Il est même temps de faire un point actuellement sur les fonds photographiques anciens qui existent encore dans le département, parce que ce sont des supports très fragiles, mais et qui sont aussi, quand elles sont conservées en des mains privées, ne sont pas toujours conservées dans de bonnes conditions. Et puis surtout, c'est tout un patrimoine qui est quand même qui a une symbolique folle. Enfin, je veux dire, de pouvoir se représenter comment vivaient nos ancêtres au début du XXe siècle ou même au XIXe siècle, c'est très difficile. C'est pas les archives publiques qui vont nous permettre de le voir. Les archives publiques, alors elles ont leur importance, hein, pour la généalogie familiale, cadastrale. Enfin, après, comment les gens ont vécu. Voilà, ils ont survécu parfois. Ça, c'est vrai qu'on est à la recherche de ces écrits du fort privé, de ses photographies, de ses dessins, de ses lettres, voilà, qui sont irremplaçables, en fait. Et c'est là le statut d'une archive, c'est que c'est un document unique. Un document imprimé, un ouvrage, une brochure, un livre. Ça, vous pouvez le retrouver en plusieurs exemplaires, en France comme à l'étranger, d'ailleurs. Une archive, c'est un document unique. Si vous détruisez une archive, c'est fini. Elle est perdue à tout jamais. Voilà, donc ça c'est notre métier, c'est notre mission, c'est de sauvegarder et de valoriser ce patrimoine.
Avec des connaissances historiques, géographiques et puis techniques.
Oui, alors c'est vrai que historique, géographique, ça on l'apprend aussi, on peut aussi l'apprendre sur le tas. On n'est pas forcément historien pour être archiviste. Par contre, on a effectivement cette fibre, cette sensibilité à l'histoire et puis aussi à servir nos concitoyens si jamais ils veulent comprendre d'où ils viennent. Et
vous avez des connaissances, ne serait-ce que moi, le cyanotype
Oui, alors par contre, en connaissances techniques, ouais, ça c'est sûr qu'on a des formations, un peu comme les bibliothécaires ont leurs normes, leur façon de classer, de décrire. Nous, on a aussi nos normes, qui sont des normes internationales. Ce qu'on privilégie par rapport à un centre de documentation, on ne va pas classer les documents par les thématiques. On va toujours privilégier le producteur, le détenteur. C'est le cas pour les archives publiques. Hein. On classera un fonds d'une administration en vertu de son histoire, de son évolution, de ses activités. Et pour un fonds privé, c'est exactement la même chose. Que ce soit des archives d'entreprise, des archives d'associations, de partis politiques, d'architectes, d'archives familiales. Et c'est pour ça aussi que souvent, ça prend du temps en fait, de classer des fonds privés, peut-être même plus qu'un fonds d'archives publiques. C'est parce que finalement, il faut recréer un petit peu sa généalogie, son activité, son évolution, et ça, on ne le trouve pas dans les livres. Hein. Il n'existe pas comme des manuels d'administration où on peut suivre, voilà, je ne sais pas, la préfecture, son histoire du début du 19e à aujourd'hui. Un fonds privé, pour peu qu'il arrive en vrac, ce qu'on appelle en vrac, bah, vous représentez, hein, 'fin, c'est-à-dire vraiment pas classé, mal identifié, ou en tout cas identifié selon celui qui l'a créé. C'est pas toujours très simple, en fait, hein, de rentrer dedans et de comprendre sa démarche. Donc voilà, ça prend du temps, en fait. Le classement est une période qui prend beaucoup de temps et qui est un travail assez isolé. Alors que la collecte, par exemple, on est beaucoup en relation avec l'extérieur, hein. Que ce soit au niveau de la collecte d'archives contemporaines ou d'archives anciennes, on en trouve encore d'ailleurs, ou d'archives privées. Là, on est beaucoup dans le contact, la discussion, l'explication aussi de comment conserver au mieux, comment aussi peuvent nous être données ou déposées des archives privées. On peut aussi envisager un dépôt numérique si besoin. Et puis après, on revient ensuite à l'humain au niveau de la communication, puisque là, on collecte toutes ces archives-là pour les communiquer un jour ou l'autre. Alors, elles ne sont pas toutes communicables de suite, hein, dès qu'elles arrivent dans nos locaux. Il y a des contraintes, il y a des restrictions qui sont liées à la loi, puisque toutes les informations ne sont pas communicables de suite, et c'est bien normal. Mais en tout cas, là, c'est aussi notre... L'idée, c'est de rendre au citoyen, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, de lui expliquer son histoire, ou en tout cas, si à un moment donné, il a envie de commencer à faire des recherches sur tel ou tel sujet, potentiellement, nous allons avoir quelque chose qui pourra l'intéresser.
On peut donc vous contacter si on est détenteur de fonds, si on a des choses dans sa cave dont on ne sait pas quoi faire, mais qui potentiellement pourraient vous intéresser.
Complètement. Il ne faut pas hésiter à nous contacter. Je pense que les gens n'ont pas forcément conscience du patrimoine qu'ils peuvent détenir chez eux et dont ils ne savent pas quoi faire. Donc voilà, il faut effectivement ne pas hésiter à nous contacter. On a un site internet sur lequel vous pourrez trouver nos coordonnées, une partie de nos inventaires, des archives numérisées, des sources généalogiques de première importance qui sont aussi disponibles. Et voilà, un certain nombre de guides qui permettent d'orienter les recherches en désignant les fonds les plus intéressants et sur lequel aussi on trouvera l'article de Camille qui est paru dans la revue Patrimoine du Sud.